Avec David Abiker.
La rue de presse est ce matin à la une, rien que du vieux.
Un an après Orpea, les EHPAD ont-ils changé? C'est la question que pose Ouest France, comme si tous les EHPAD et comme si tous les établissements accueillant des personnes âgées étaient en cause. Orpea, un an après, où en est-on? S'interroge Sud-Ouest, qui resserre le sujet. Un an après le scandale, pas de merveille pour les vermeils, se désole Libération. En janvier 2022, rappelle le journal, le livre enquête Les Fossoyeurs mettait en lumière la maltraitance systémique dans les EHPAD et bouleversait la société française. La maltraitance systémique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que les EHPAD sont un système qui organise la souffrance des aînés, consciemment ou non, dans les établissements? Pourquoi généraliser? Pourquoi faire des défaillances d'Orpea une dérive générale? Pourquoi sans arrêt transformer la brebis galeuse en référence universelle? La Croix est plus prudent, qui titre les EHPAD en quête de confiance pour restaurer le lien avec les proches. Le secteur des maisons de retraite communique sur ses ambitions éthiques et sur la transparence, car ce n'est pas à coup de catastrophisme qu'on fera progresser les pratiques et encore moins qu'on suscitera les vocations. Car à force de tirer sur les EHPAD, plus personne ne voudra y travailler. La presse, elle aussi, parfois, doit prendre ses cachets et se calmer.
Réforme des retraites, là encore, rien que du vieux. Vous êtes enthousiasmant, vous, ce matin.
Ça devient long, long comme une journée en EHPAD, Guillaume. Retraite, le débat monte sur les carrières longues. C'est en une des échos. Retraite, le rôle ambigu du corps, conseil d'orientation des retraites. L'opinion vous explique comment le gouvernement peine à s'appuyer sur cet organisme indépendant, expert, dont le président Pierre-Louis Bras passe une partie de son temps à expliquer l'état du système par répartition aux syndicalistes, aux députés, aux journalistes. Il fait de la pédagogie. Que n'a-t-il dit jeudi dernier? Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées et dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à court terme. Une aubaine pour les détracteurs de la réforme et un agacement certain au gouvernement. Dans Libération, deux pages pour mettre en avant les renégats qui se comptent dans le camp des soutiens à la réforme. Le Parisien vous raconte aussi comment l'aile gauche du parti présidentiel a des velléités d'amender sérieusement le projet de réforme. Dans Les Échos, Étienne Lefebvre parle de grand bazar politique. Que d'énergie, que d'analyse, que de temps passé, quand dans ce même Parisien aujourd'hui en France, on apprend que nous manquons d'eau.
La France, bientôt, dites-vous, écrivez-vous plutôt au régime sec.
Le quotidien annonce le plan de sobriété du gouvernement. Les Français vont devoir baisser leur consommation d'eau. C'est le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui s'y colle sans annoncer grand-chose. Et certainement pas les toilettes sèches en ville. Juste un objectif, réduire de 10% la consommation d'eau des sous-sols d'ici la fin du quinquennat. La belle affaire, quand tous les signaux des mois à venir sont au rouge. Les Français eux-mêmes sous-estiment leur consommation d'eau. Ce n'est pas 100 litres d'eau consommée ou utilisé par jour, c'est 150. On peut faire autrement. Exemple à Niort, qui en 2005 a frôlé la coupure d'eau potable. En 15 ans, la ville a réussi à réduire sa consommation de 50% en faisant la chasse aux fuites et en appelant les consommateurs à faire attention. Niort, j'adore. En réalité, plus vous lisez les journaux ce matin, plus vous vous dites qu'on perd notre temps à nous disputer sur le sujet des retraites. 41% d'oiseaux en moins dans nos jardins entre 2012 et 2022. Un monde sans oiseaux, c'est un sujet plus important que la réforme des retraites. Voilà ce qu'on se dit, paradoxalement, en lisant le Figaro. Et je vous invite à lire le numéro de février de Science et Avenir, qui titre « Inverser le réchauffement climatique, c'est possible ». On n'est pas fichu de réformer les retraites, comment voulez-vous qu'on refroidisse le climat?
Voilà, vous êtes le Visconti de la revue de presse et vous nous parlez, comme Visconti parle des damnés et de l'élimination des SA, de l'ami dans les damnés, donc la milice Wagner.
Wagner, c'est dans Ludwig.
Oui, je sais, là je parle de la milice.
C'est Wagner qui tape du pognon à Louis II en permanence.
Je sais.
Le magazine Society vous explique comment l'armée secrète de Poutine est devenue un empire. Il tire le portrait de son fondateur, Evgeny Prigojine, un ancien traiteur, organisateur de fêtes pour le Kremlin et de réceptions pour les grandes ce monde en visite en Russie. Jacques Chirac a testé en son temps. 61 ans, Prigojine, mais déjà un passé. Homme d'affaires, repris de justice, mercenaire, confident de Poutine. C'est lui qui recrute dans les prisons russes pour envoyer les taulards se racheter une vie sur le front ukrainien. C'est Prigojine qui a créé la milice qui, peu à peu, étend son influence en Afrique subsaharienne. Un ancien salarié de son groupe en parle ainsi. Au début, une personne avenante, drôle, joviale, qui sait tenir une conversation et l'on se dit que tout ce qui se dit sur lui est faux. Mais une fois qu'il vous a embauché, il surveille tout. Il est mécontent, même quand les résultats sont bons. Une de ses blagues récurrentes, c'est d'entrer dans votre bureau, pistolet en main, et de lancer « Allez, viens, on va parler, je vais te buter ». Prigogine n'est pas tout seul. Il y a comme ça une bande qui gravite autour de Poutine. Une bande autour de Poutine. Et Society pose cette question chaque jour plus riche et plus puissant. Le cuisinier de Poutine, Prigogine, peut-il faire basculer la Russie dans quelque chose d'encore pire. Un chef toxique d'un autre genre est partout dans les rubriques cinéma des journaux avec la sortie en salle de Tar avec Cate Blanchett. Étude de caractère d'une chef gay. Aussi géniale qu'abusive et ambitieuse, écrit Libération. Requiem pour une femme de pouvoir, titre Le Figaro. La presse adore, mais pas Marine Alsop. Chef d'orchestre de 66 ans qui s'est reconnue dans cette fiction. Offensée en tant que femme, dit-elle, en tant que chef, en tant que lesbienne, a-t-elle déclaré dans le Sunday Times il y a 10 jours, estimant que le film s'inspirait un peu trop de sa vie. N'empêche, la vraie égalité homme-femme, c'est de voir une femme chef homo exercer le pouvoir, en abuser, se planter. C'est aussi ça, la parité.
Voilà, il est 8h39 et pour les Oscars, donc, qui vont avoir lieu au mois de mars, la bataille aura lieu entre Michelle Yeoh et Cate Blanchett, justement, dans ce rôle du côté donc des rôles féminins. 8h40, nous sommes avec Pascal Bruckner et Marc Lambron.